Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale ayant pour thème le Far West ou Wild West pour les puristes, et on commence avec un magnifique jeu d'arcade de Konami. Peu connu dans l'Hexagone, Wild West Cowboys of Mumeza est une série animée tirée d'un comic book créé par Ryan Brown, un artiste ayant auparavant travaillé sur la série des Tortues Ninja. Celle-ci met en scène des bovins mutés en humanoïdes grâce à une météorite à la fin du 19e siècle. Les bovipomorphes se sont ensuite organisés en société à la manière du Far West avec ses cowboys, ses shérifs et ses bandits. Si la série n'a duré que deux saisons pour un total de 26 épisodes, cela n'empêcha pas Konami d'adapter cette franchise en jeu vidéo. On constate d'ailleurs que l'éditeur adaptait de nombreuses séries tirées de bandes dessinées ou de dessins animés en arcade durant la première moitié des années 90, comme Astérix, Bucky O'Hare, G.I. Joe, Les Simpsons, Tortue Ninja ou encore X-Men. Dans ce jeu d'action, vous pourrez incarner l'un des quatre principaux personnages pour aller à la rescousse de Lily Bovine, enlevée par le mystérieux taureau masqué. Reprenant très largement le gameplay de Sunset Riders, sorti l'année précédente, Wild West Cow vous plongera dans sept niveaux d'action ininterrompus, alternant phases de run and gun et de shoot 'em up. L'ordre des niveaux 2 à 6 peut être laissé au libre choix du joueur ou non en fonction de la configuration de la PCB. Nos cowboys peuvent tirer dans 8 directions, sauter et s'accrocher à des plateformes en hauteur ou effectuer une charge en appuyant simultanément sur le bouton de saut et d'action. Cette même combinaison vous permettra également d'utiliser certaines armes spéciales que vous pourrez acquérir en dégommant des poulets volant de manière aléatoire à travers l'écran. Ce gameplay reste globalement le même lors des phases de shoot 'em up où, accroché au cerf d'un aigle, vous devrez éradiquer ennemis et engins volants ou roulants. L'esthétique globale du soft reprend assez fidèlement celle de la série animée d'origine. Les graphismes sont colorés et de plutôt bonne facture. Les animations détaillées restent dans un ton très cartoon avec un tas de petites animations humoristiques pour votre personnage ou les ennemis en fonction des situations ou des dommages qu'ils subissent. On regrettera tout de même la raideur de nos quatre bovins. Néanmoins, le jeu ne souffre d'aucun ralentissement malgré le nombre parfois élevé de sprites à l'écran. Les musiques se marient plutôt bien à l'ambiance générale, mais ont la fâcheuse tendance à se faire assez discrète, ce qui fait que le joueur n'y prêtera guère attention. La difficulté plutôt bien dosée permettra une progression régulière, sans pour autant passer son temps à se faire tailler le steak. Si Wild West Cowboys of Mumeza reste un jeu sympathique, il est loin d'être le titre le plus mémorable de Konami. Le succès très limité de la série animée et sa non-conversion sur console auront vite fait de faire tomber ce jeu dans l'oubli. Le soleil vous brûle la peau, la sueur commence à perler sur votre front. Et sous votre chapeau, vous sentez les ennuis qui arrivent aussi vite qu'une balle de 44. Vous êtes le shérif de la ville de Kane. Le jeu tire son nom d'un film de western très connu, Le train sifflera trois fois, où le héros n'est autre que le maréchal Will Kane. En voilà une bonne référence pour un jeu de western. Ce jeu a été édité en 1986 par Mastertronic. Le jeu se déroule en quatre phases distinctes. La première où l'on doit tirer des flèches sur des oiseaux pour les abattre afin de faire du commerce avec les Indiens. Cette phase n'est pas facile car les flèches n'atteignent pas instantanément la cible. Il va falloir anticiper sur celle-ci. Et le fait que les oiseaux ne sont pas à la même hauteur renforce la difficulté. Néanmoins, une fois que l'on s'y fait, c'est tout à fait faisable. La seconde phase met notre shérif à cheval et celui-ci doit se rendre le plus rapidement possible à la ville de Kane. Cette phase n'est qu'un prétexte pour faire une course d'obstacles. Il faudra donc foncer tout en évitant les buissons, les rochers, etc. Sinon, gare à la chute. La phase 3 est l'arrivée du shérif dans la ville de Kane. Malheureusement, plein de bandits sont venus vous tendre un piège. Vous devrez donc les abattre et pour ce faire, vous pourrez vous déplacer de gauche à droite et bouger le curseur de haut en bas, ce qui permet de tirer assez facilement sur les cibles. A noter que vous avez juste 6 balles dans votre revolver. Mais attention, car pendant le rechargement de celui-ci, vous êtes complètement vulnérable. Ensuite, vous avez la dernière phase, dans laquelle vous remontez encore une fois à cheval, mais vous parcourrez l'écran dans l'autre sens, de droite à gauche. Et dans cette scène, vous devez rattraper le train afin d'y monter en marche. Comme pour la phase 2, vous devez éviter tout un tas d'obstacles. Au niveau graphisme, pour un jeu sorti en 86, on peut dire que l'animation du shérif est particulièrement bien foutue. Pour la musique et les bruitages, il n'y a rien de bien transcendant par contre. Ce jeu était sorti en premier sur Commodore 64 et n'avait que 2 phases. Puis il est sorti sur Amstrad et ZX Spectrum et autres micros de l'époque. Une suite vu le jour, mais ceci est une autre histoire. Vous le savez aussi bien que moi, les Japonais ont toujours eu une grande capacité à assimiler la culture occidentale. Ainsi, lorsqu'ils créent un jeu prenant comme décor le Far West, on ne peut s'empêcher aux visions iconographiques du genre. Saloon, attaque de banque, Winchester, indien, cowboy en pantalon de cuir et mexicain à grosse moustache. Konami, qui a eu aussi une grosse période beat'em up et run and gun au début des années 90, ne pouvait décemment pas rater l'occasion de faire un jeu dans cet univers où les gens avaient la gâchette facile. Ce jeu, c'est Sunset Riders. Sorti en 1991 en arcade, le titre sera très vite adapté sur console. Si la version Super Nintendo, éditée en 93, se veut extrêmement fidèle à son modèle, la version Mega Drive, sortie un an avant, a subi pas mal de changements. D'une part, si la version originale proposait de pouvoir jouer à 4 simultanément, sa déclinaison console ne propose plus que de jouer à 2. Logique, me direz-vous, mais ce qui l'est moins, c'est de ne proposer que 2 des 4 personnages initiaux. Vous n'aurez donc le choix qu'entre Billy et Cormano. Mais que sont devenus Steve et Bob? Nous l'ignorons. Peut-être que leurs carcasses se sont fait dévorer par des charognards au beau milieu du désert. D'autre part, le jeu a été totalement restructuré. De 8 niveaux, nous sommes passés à 4. Néanmoins, ceux-ci ont été divisés en 2 parties. La première, où vous devrez délivrer une jeune dame en détresse, toujours la même d'ailleurs, et la seconde, où vous devez éliminer un criminel notoire. Les premiers stages seront entrecoupés de stages bonus, où vous devrez rattraper à cheval les items qu'une demoiselle vous jettera grassement à la figure. Au point de vue du gameplay, rien n'a changé par contre. Vous pourrez toujours tirer dans toutes les directions, soit en marchant, soit en campant sur votre position. Vous pouvez également sauter, glisser, grimper sur des plateformes et ramasser des bâtons de dynamite pour les relancer sur vos adversaires ou un obstacle. Malgré une réalisation tout juste honnête, avec des graphismes corrects et des musiques assez anecdotiques, le jeu pourra sembler court, mais la difficulté en rendra fou plus d'un. Avec ses nombreuses balles volant à travers l'écran, vous aurez vite fait de vous prendre une balle perdue. D'autant que votre avatar n'a pas de barre d'énergie. Vos vies vont donc vite s'envoler. Sunset Riders sur Mega Drive se révèle être un improbable croisement entre Contra et un Manic Shooter, tant vous passez de temps à distribuer des pruneaux tout en esquivant les tirs adverses. Les novices de la gâchette peuvent donc passer leur chemin pour éviter de finir avec le goudron et les plumes. Pour la petite anecdote, sachez que ce titre, bien que développé par un studio japonais, n'a jamais été commercialisé sur l'archipel, que ce soit la version Mega Drive ou la version Super Nintendo. We'll be right back. L'Ouest américain commence à devenir une zone de non-droit. Et c'est à vous et votre frère de sang de remettre les choses en ordre avant que le chaos le plus total ne s'installe. Laissez parler vos Colts et abattez les criminels les plus recherchés de l'Ouest. Voici comment on pourrait résumer l'histoire de Blood Bros, sortie en arcade en 1990 par Tad Corp. Ce jeu est dans la lignée de Cabal qui est du même éditeur. Nous voilà donc dans un jeu de tir en vue arrière sur écran fixe. Vous devez éliminer tous les ennemis, mais pas seulement. En effet, il sera aussi possible de détruire les éléments du décor, enfin pas tous, mais une grande partie. Il vous sera aussi possible de tirer sur des cibles plus ou moins cocasses, telles que des cochons, des danseuses de saloon, etc. Les armes sont aussi diverses que dévastatrices et vous aurez aussi le droit de dynamiter dans la limite du stock disponible. Avec tout ça, les méchants n'ont qu'à bien se tenir. Les ennemis ne sont pas que des Indiens et il est intéressant de constater que le deuxième joueur est justement un Indien. Vous devez faire face à différents véhicules comme des avions et des ballons dirigeables. C'est ici. Votre personnage peut se déplacer de gauche à droite, mais quand vous faites feu, le personnage doit rester immobile. C'est à ce moment précis que vous serez le plus vulnérable. Cependant, vous avez un bouton qui, actionné avec une direction, vous permettra de faire un plongeon à droite ou à gauche et vous sauvera d'une mort certaine. Quand vous êtes en mode tir, le curseur se déplace rapidement et précisément, et contrairement à Cabal, ce jeu se jouait au joystick et non pas au trackball. Ce titre est le type de jeu typique que l'on croisait dans les bars dans les années 90. Graphiquement, le jeu est vraiment joli et les animations sont aussi drôles que bien foutues. Les musiques ne sont pas en reste et collent tout à fait à l'action, du moins quand il n'y a plus de tir. Un hit auquel on peut s'essayer, même si on n'est pas fan de western.
J'aime pas que l'on fasse du grabuge dans ma ville.
Voici un jeu très sympa, que ce soit dans le fond comme dans la forme. En effet, ce jeu qui est fait surtout pour deux joueurs vous permettra de régler vos comptes avec vos potes et tout ça virtuellement sans le désagrément et les effets secondaires d'un véritable gunfight tel que la mort par exemple. Non, plus sérieusement, ce jeu fut créé par Atari sur arcade en 1976, mais ceci est le portage réalisé en 1979 par David Crane sur Atari VCS, autrement dit, notre bonne vieille 2600. Dans ce jeu, vous avez plusieurs modes, même si le but final est toujours le même, éliminer votre adversaire. Et pour ce faire, nos cowboys devront se tirer dessus avec ou sans rebond, avec ou sans décor destructif, avec ou sans décor mouvant et ou destructif. J'espère que vous me suivez. En bref, tout un programme qui permettra de faire varier les parties. Le concept fait énormément penser à Combat sur VCS, pour ceux qui connaissent. Pour les autres, il s'agit du même type de jeu avec des chars, des avions, etc. Bref, le programmeur a tout de même pensé à un mode solo, même si cela ne s'avère finalement pas très intéressant. En effet, il faut tirer sur une balle qui fait office de cible mouvante, qui marque des points à chaque rebond, et il est vraiment très difficile de battre l'ordinateur. Du côté des graphismes, on est loin de l'Atari 2600 dans ses grands jours. Le jeu est pauvre graphiquement et l'environnement sonore quasi inexistant. Ce jeu est sympa à deux pour se remémorer la bonne époque des westerns en mode 80s vintage. Hélas, le soft a énormément vieilli et il ne vous scotchera guère plus d'une dizaine de minutes. Allez Silver, on s'en va. Wouhou ! Wild Guns sur Super Nintendo est un jeu de tir en vue objective à la manière d'un Cabal ou d'un AM 1975. Développé par Natsume en 1994, il fut édité et distribué assez tardivement en Europe par Titus en 1996. Le titre nous emmène dans un Far West alternatif où les cowboys et les chercheurs d'or côtoient des robots et autres machines évoluées. Annie est une jeune femme dont la famille fut décimée par le gang du Kid. Celle-ci demandera de l'aide à un chasseur de primes nommé Clint pour éradiquer le gang et assouvir sa vengeance. Il ne vous aura pas échappé que les noms des personnages sont de probables références à Annie Oakley, l'une des plus fines gâchettes de la fin du 19e siècle, et à Clint Eastwood. Le jeu est divisé en 6 niveaux dont l'ordre est laissé au libre arbitre du joueur, à l'exception du premier et du dernier. Chaque niveau est divisé en 3 stages. Les deux premiers vous mettront face à une horde d'ennemis que vous devrez annihiler pendant un certain laps de temps. Une fois ce temps écoulé, un sous-boss viendra vous défier. Le troisième stage vous opposera directement à un énorme boss mécanisé. Le joueur peut se déplacer de droite à gauche de l'écran, sauter, esquiver et tirer. La visée se fait avec un curseur à l'écran. Un appui maintenu vous permettra de tirer en rafale, alors qu'un appui répété vous permettra de lancer une attaque qui immobilisera momentanément un adversaire. Vous pouvez également utiliser des bombes qui nettoieront l'écran de tous les ennemis. Et dégommer des ennemis à la pelle augmentera une jauge de furie qui, une fois pleine, vous rendra invincible et augmentera drastiquement votre puissance de tir, mais seulement pour une courte durée. En plus de votre arme de base, vous pourrez récupérer d'autres armes en éliminant les ennemis ou en détruisant certains éléments du décor. Vous pourrez ainsi récupérer un fusil à pompe, un fusil mitrailleur, un lance-grenade ou un fusil à petit poids. Cette dernière arme, dont la puissance de tir est nulle, est avant tout un bonus empoisonné dont il faudra vider le chargeur pour revenir à une puissance de tir normale. Jouable à deux en coopération ou en duel en tir sur cible, qui sont les stages bonus du mode histoire, Wild Guns offre une expérience de jeu très plaisante. Magnifiquement réalisé, avec des graphismes fins et colorés, une animation qui ne ralentit jamais, ni ne clignote, et des thèmes musicaux entraînants. Ce jeu est donc une des valeurs sûres de la Super Nintendo, qui doit sa regrettable chute dans l'oubli à une sortie bien trop tardive. Une aubaine pour les collectionneurs qui disposent là d'un titre rare et coté. Voilà, en espérant que cette émission vous ait bien dépaysé, on se retrouve dans 2 semaines avec un épisode classique. Simax et Julien F se joignent à moi pour vous dire à la prochaine.